Elle oubliait de manger en parlant de Dieu. Souvent aussi, lorsqu'il venait la trouver dans sa cellule, il la voyait en extase, contemplant le monde surnaturel, et l'entendait parler une langue comparable à celle de saint Augustin. Quand Catherine était en extase, tantôt elle souriait, tantôt les larmes jaillissaient de ses yeux et mouillaient ses longs cils noirs. Puis, dès qu'elle avait repris ses sens, son visage redevenait doux et paisible. C'est qu'en dépit de ses travaux domestiques et malgré les exigences de la vie matérielle, les extases de Catherine se renouvelaient sans cesse. Elles n'étaient point le résultat d'une existence renfermée et se produisaient aussi bien dans la cuisine ou dans la pièce où l'on serrait les provisions que dans la cellule. Lisa trouva même une fois sa belle-sœur complètement affaissée sur les braises du foyer. L'extase l'avait saisie tandis qu'elle tournait la broche. Par bonheur, Catherine n'eut aucun mal, pas plus qu'elle n'en éprouva lorsqu'un jour à l'église, un cierge tomba d'un chandelier sur sa tête où il continua de brûler. Il va sans dire que le bruit de ces événements extraordinaires se répandit bien vite aux alentours et que Catherine devint l'objet d'une curiosité toujours croissante. Ceux qui, par l'intermédiaire du père Tommaso, cherchaient à la voir, et de préférence durant ses extases, devenaient de plus en plus nombreux. Le dominicain Niccolo di Bindo della Cassina accourut même de Pise et eut non seulement la chance de voir Catherine en extase, mais encore, affirme Caffarini, de la voir s'élever à plusieurs mètres du sol, sur quoi frère Niccolo s'enhardit à toucher du bout du doigt l'une des mains jointes de la sainte. Et pendant les 48 heures qui suivirent, ce doigt exhala une odeur infiniment suave, un parfum qui rafraîchissait son âme en même temps que ses sens. Les femmes partageaient l'admiration des moines pour Catherine, et tout particulièrement les Montelate, parmi lesquels nous trouvions ses amies les plus intimes, Lisa, déjà nommée, Alessia Saracini et Francesca Gori. Alessia devint la confidente de Catherine, et nombreuses sont les lettres écrites de la main de cette noble dame pour la fille du teinturier qui ne savait encore ni lire ni écrire. Alessia et Francesca, Checha, ainsi qu'on l'appelait volontiers, étaient toutes deux veuves. Cette dernière, plus âgée, avait trois fils dans l'ordre dominicain, Catarina di Ghetto, Giovanna di Capo, Catarina dello Spedaluccio, sont d'autres amis de la même époque. Dès le début des relations de Catherine avec ses amis, vieilles ou jeunes, ce furent celles-ci qui, instinctivement, se soumirent à la jeune Vierge, et bien qu'elle fût leur cadette, toutes l'honoraient du nom de mère, madre ou mama, comme elles l'appelèrent bientôt, étant devenues plus intimes avec elle. Catherine confiait souvent ses visions à ses amies. Un jour, deux d'entre elles vinrent partager son repas, lequel fut servi sur le banc qui, durant la nuit, le servait de couche. « Voici vraiment une sainte table, » dit en plaisantant l'une des convives. « Oui, » répondit Catherine. « Ah, si tu savais qui s'y est assis !» Et elle raconta la visite de Jésus et de Madeleine. De temps à autre, les amis sortaient ensemble de la ville, et le but ordinaire de la promenade était la vieille abbaye bénédictine de San Abbondio. Et San Abbondio, communément appelée Santa Bonda. C'est là que peu d'années auparavant, Giovanni Colombini, mort en 1367, avait eu ses entrées libres. L'abbesse, Mona Pavola di Forelsi, avait été son amie intime. Sa fille unique, Angiolina, y était religieuse et lui-même se trouvait enterré dans le cloître de l'église. Ses lettres à Mona Pavola, fréquemment relue et méditée après sa mort, constituait le trésor le plus précieux du couvent. Sa parente, nommée Catarina, la cousine germaine de Lisa Benincasa, était prieur d'une communauté de femmes fondée par lui, située près de la porte San Sano. Personnellement, Catherine n'avait jamais connu son célèbre devancier. Le temps de son apostolat avait été court et son action s'était principalement exercée hors de Sienne. À Arezzo, Città di Castello, Lucia, Pisa, Monticchiello. Puis il était mort à une époque où Catherine n'était point encore sortie de son obscurité. Mais Santa Monda, étant tout imprégnée de son esprit, elle avait dû entendre parler beaucoup de lui, chanter ses laudes et lire ses lettres. Aussi croit-on déjà entendre Catherine lorsque dans les lettres de Colombelli on lit ces lignes. Tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ réclame de nous, c'est un pur et sincère amour, et qui donc le lui refusera? Il est si bon que nous devons l'aimer tendrement à cause de sa bonté même. Ô très chère Mère en Jésus, je vous transmets ma dernière volonté. Je vous fais part de mon désir le plus ardent. Ceci est mon testament. Je vous écris mon cœur, qui n'est plein que de l'amour de Jésus-Christ. Il nous a légué son amour. L'amour fut ton testament, et celui qui veut recevoir l'héritage doit exécuter le testament. Si quelqu'un cherche l'amour, qu'il cherche le Christ. Si quelqu'un veut aimer, qu'il aime le Christ. Soyez prudente, détachez-vous de tout, et ne vous laissez jamais entraver par aucune circonstance, même sous prétexte de faire le bien. Malheur à nous si nous rejetons le Christ et ses précieux dons. Ceux qui ne se détachent pas de tous les liens s'enchaînent eux-mêmes et chassent le Christ.